Moi, Monsieur Sénard, vous êtes de passage au Québec. Vous êtes toujours heureux de revenir ici.
Absolument.
Nous, on s'ennuie, bien sûr, de votre présence au plan du chant choral, parce que c'est une absence qui est remarquable par ceux qui exercent le métier de choriste. On s'ennuie, Jean-François Sénard. Et je vois Monsieur Grandmaison opiner.
J'acquiesce sans aucune hésitation.
Mais j'en me l'a révélé. Moi, j'avais la sensation inverse, excusez-moi, mais depuis 90, je n'avais plus de contact du tout. Et je me disais, bah, tiens, au Québec, on n'applique pas tout à fait la devise, je me souviens. Et donc, je suis revenu plusieurs fois parce que j'ai une fille qui est ici comédienne et qui vit donc à Montréal, qui ne vit pas en France avec moi. Et pour une bonne raison, qu'elle est assez âgée pour ça, pour vivre toute seule. Mais voilà, c'est que je revenais donc fréquemment au Québec et je revoyais des amis, mais pas le milieu choral.
Ça m'amène à vous demander, oui. Quel constat faites-vous de l'état de santé du chant choral ici au Québec ou dans la francophonie de manière générale?
Bon, ben moi, je peux vous dire une chose, c'est que ce que j'ai vécu au Québec et ce que je vis en France, c'est me confirme dans l'idée qu'au Québec, on chante mieux et plus souvent, et on est plus nombreux à chanter. C'est plus spontané au Québec de chanter qu'en France, malheureusement. Donc, il y a d'excellents chanteurs, d'excellents amateurs. Regardez la population. Sur la population, il y a énormément. Vous allez dire, il y a beaucoup encore de...
Mais est-ce que la vitalité est la
mais
même?
Mais la vitalité n'est pas la même, non. Parce que les traditions, la façon dont la musique est enseignée à l'école, l'intérêt qu'on... C'est pas tout à fait propre à la France. Et du reste, Mozart le disait lui-même déjà.
Mais on a l'impression que les plages de diffusion de ce type de musique sont de moins en moins nombreuses. Est-ce que je me trompe?
Je dirais pas ça. Non. Il y a des mouvements chorales à cœur joie en France qui a fait beaucoup de choses pour sensibiliser la masse des mélomanes à la qualité du chant choral. Il y a manque d'intérêt, je sais pas. Au Québec, j'ai pu constater, puisque je suis venu faire un masterclass, qu'il y avait des choristes emballés, des choristes qui avaient envie de chanter, des choristes qui étaient là pour aider des chefs à devenir des chefs et qui étaient là à leur disposition pendant une semaine. C'est merveilleux, ça, c'est super. Voilà, donc, et moi, je trouve que ici, on est plus libre et plus spontané qu'en France. Voilà.
Voilà. Alors, présentez-nous la prochaine pièce. Et là, c'est probablement l'interprète qui vous a d'abord donné le goût de nous présenter cette pièce.
Oui, c'est que, voilà, nous avons un conservatoire à Aix-en-Provence. J'y ai enseigné pendant 13 ans. Pas à son époque, bien entendu. Mais nous avons des artistes aixois, dont une en particulier, une pianiste qui s'appelle Hélène Grimaud, et qui a fait son chemin à travers la planète, puisqu'elle a une carrière internationale maintenant.
Elle
a commencé très jeune, elle a fait toutes ses études, son B.A.B.A. de piano, elle l'a fait à Aix, au conservatoire d'Aix, et ensuite elle est allée à Juilliard, elle fait carrière, une grande carrière internationale, et c'est agréable de le souligner.
Et en plus, il faut dire qu'en 91, alors âgée de 21 ans, elle s'est établie en Floride, et elle s'est mise à étudier le comportement des loups.
Oui.
Elle a même décidé de créer une fondation
oui,
et un parc
vrai, vrai,
consacré à l'étude et à la réhabilitation des loups. Elle a même un diplôme d'éthologie indispensable pour ouvrir un tel centre. C'est vraiment une artiste de génie.
Une artiste, oui, absolument, bien. Maintenant. Est-ce qu'il faut s'occuper des loups pour être... Je ne sais pas, ça montre sa générosité, ça montre qu'elle n'est pas uniquement une faiseuse de notes, et elle, voilà.
Alors, la voici dans l'Adagio, le deuxième mouvement du concerto pour piano numéro 23 en la majeure, Köchel 488, de Wolfgang Amadeus Mozart.
Thank you.
Un mot pour revenir sur Hélène Grimaud. Elle est aujourd'hui correspondante de plusieurs organisations scientifiques et elle œuvre pour la réintroduction du loup dans son milieu naturel. C'est quand même assez extraordinaire. Est-ce que vous avez des talents tous les deux autres que ceux de la musique?
Ah, moi, si j'avais été fort en mathématiques, je serais devenu un astronome.
Ah, je vous vois, vous, astronome.
Parce qu'il fut un temps où je connaissais très bien l'astronomie.
Votre musique est céleste.
Oh, c'est très gentil. Mais j'ai toujours été fasciné par l'espace. J'ai même été un ami d'un astronaute français, Jean-Loup Chrétien.
Ah oui?
Et qui m'a fait l'honneur d'ailleurs de me faire monter dans sa capsule spatiale dans laquelle il a été avec les Russes pendant... Je peux vous dire qu'on est assez dans ça, mieux que dans certaines compagnies d'avion.
Mais j'imagine qu'une fois dans l'espace, on se retrouve
justement,
très inspiré.
C'est parce que quand on est en apesanteur, on est libre comme l'air, c'est le cas de le dire. Mais j'ai toujours été fasciné par ça. Et assez curieusement, une des musiques qui m'a toujours fait communiquer avec l'espace, c'est la musique d'Edgar Varèse. Edgar Varèse qui, dans Équatorial, dans Octandre, il y a beaucoup de titres là. Et pour moi, cette musique-là m'a toujours, qui est une musique très d'avant-garde, si on veut, et m'a toujours... Désert, c'est un chef-d'œuvre. Le poème électronique, c'est un chef-d'œuvre.
Avoir su, on aurait programmé, mais on va devoir vous réinviter pour présenter ce type de musique.
Mais pour moi, quand j'étais petit, ou... Mettons, adolescent, j'ai toujours été un rêveur, alors donc je partais dans les vapeurs célestes.
Et vous, Jean-François Sénard, si la musique n'avait pas comblé vos passions, qu'auriez-vous fait?
J'aurais aimé être archéologue.
Ah tiens!
Oui, j'adore les antiquités, j'adore fouiller. J'ai une main pour ça, je trouve des choses.
Alors, est-ce que vous fouillez les archives musicales parfois?
Bien sûr que je fouille les archives musicales.
Votre plus belle découverte?
Ma plus belle découverte, oh mon Dieu.
Il y en a eu nombreux, je présume.
Il y en a eu énormément. Maintenant, ma plus belle découverte, c'était une petite pièce que j'avais dans mes cartons, et puis qui était éditée par mon grand-père, car mon grand-père avait été éditeur de musique à Paris. C'est lui qui a lancé Honegger et tous ces musiciens d'avant-guerre, et d'avant-dernière guerre. Et... Ce musicien s'appelait Georges Migaud. Georges Migaud, c'est quoi? Bon, alors je vous raconte ça parce que ça vaut la peine. Les choses arrivent dans la vie sans qu'on prévoie. Je décide de faire cette petite pièce qui est intitulée Noël. Bon, ça dure 3 minutes, hein? Bon, on monte ça dans un programme de Noël pour Radio-Canada avec l'ensemble vocal de Radio-Canada. Très bien. Cette musique était un peu spéciale dans la façon, les tournures contrapuntiques, la façon de le langage musical. Ça a dérouté un petit peu les chanteurs parce que ça allait ailleurs que là où on voulait que ça aille. Bon, bref. Quand une fois qu'on l'a chanté, on a été très heureux, on l'a donné dans ce programme. Et puis, quelqu'un s'est manifesté. Après, à l'écoute sur les ondes, essayer d'entrer en communication avec moi pour me dire vous savez, j'ai fait une thèse sur Georges Migaud. Je suis sœur Hortense Morissette. Ah bon? Et vous savez que Georges Migaud est encore vivant. Vous savez que. Non, je ne sais pas. Je ne sais même pas qui il est. Je sais que c'est mon grand-père qui l'a édité, la musique, mais je n'ai pas de précision. Ouais, ouais. Et je me dis bon. Qu'est-ce que je peux faire? Mais vous pouvez lui écrire. Alors, je lui ai écrit. J'ai reçu une réponse. Et il était tout heureux. Mais moi, c'est une pièce qui durait 3 minutes. Hein, c'est pas grand-chose. Et il m'a dit, mais seriez-vous le apparenté à monsieur qui était mon grand ami, etc. Je réponds, oui, c'est mon grand-père. Et du coup, j'ai fait la connaissance de Georges Migaud et je l'ai rencontré. Je suis allé en France et...
Alors, nous sommes allés aussi fouiller dans les archives. On ne veut pas vous vieillir, mais ça, c'est extrait de l'ensemble vocal de Radio-Canada
voilà.
En 1975, donc il y a 40 ans.
C'est un extrait d'une émission où on a chanté le Requiem, écrit par Georges Migaud, qui est une des œuvres capitales de la musique a cappella du XXe siècle, française.
Formidable que de pouvoir réentendre et découvrir parfois des œuvres comme ceci.
Surtout qu'on ne l'a pas enregistré sur disque. Là, c'est un vestige d'une émission qui est partie dans les airs, dans l'espace, pour aller rejoindre notre ami Pierre.
On découvre votre complicité légendaire tous les deux. On va tout de suite enchaîner avec la prochaine pièce. Un mot peut-être pour nous la présenter. Vous nous proposer la mère de Claude Debussy, mais probablement parce que l'Orchestre symphonique de Boston et surtout son directeur vous fascine.
Ah oui, c'est pour moi, c'est mon chef préféré, c'est Charles Munch, et pour toutes sortes de raisons, mais en particulier que j'ai chanté sous sa direction, donc j'ai été fasciné par ce chef. Et et pour moi, il incarne vraiment tout ce qu'un chef doit être, c'est-à-dire pas seulement un technicien de la baguette, mais aussi un grand interprète, un grand humain. J'ai vécu ces moments à Tanglewood où il dirigeait l'orchestre de Boston et les musiciens étaient joués. Il n'avait pas besoin de faire grand-chose parce qu'il simplement, il émanait de lui ce qu'il fallait.
Un mot, Pierre, vous n'avez jamais ou à peu près pas à subir les foudres d'un chef d'orchestre. Vous êtes bien dans votre petite installation où se retrouvent les grandes orgues.
Ce que j'ai fait quand même, pas loin d'une centaine de concerts avec l'Orchestre symphonique de Montréal, avec Charles Dutoit. Et avec Jean-François Sénard pour le Requiem de Durufle. Et à chaque fois que l'orchestre avait besoin d'une partition d'orgue, une partie d'orgue, Charles Dutoit me demandait pour me joindre à eux. Alors, je me rappellerai juste une petite anecdote. Je venais de jouer un concert à Notre-Dame de Paris en 1982. On est le dimanche. Et le mardi, je dois jouer la partie d'orgue de la troisième symphonie de Saint-Saëns avec Charles Dutoit. Alors, je me retrouve à l'aéroport Charles de Gaulle. Puis j'espère que l'avion ne sera pas en retard parce que je ne pourrai jamais faire le concert. Alors, qui je vois arriver? Charles Dutoit. On prenait le même avion.
Ah oui.
Alors, il dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Ben, j'ai dit, je viens de Paris, et vous? Ah, ben, je viens diriger l'orchestre de Berlin. Puis, j'ai dit, au moins, si l'avion est en retard, je ne serai pas tout seul.
Alors, retraversons la mer et redirigeons-nous vers Boston.
Tout à fait.
Thank you.
Comme le temps passe vite en compagnie de Jean-François Sénard et de Pierre Grandmaison, on est presque au terme déjà de notre émission, mais on va vous demander de nous revenir tous les deux la semaine prochaine, si vous voulez bien. D'autant que la semaine prochaine, c'est la semaine sainte. Alors, je présume que vous allez nous proposer des pièces de caractère religieux.
Certainement.
Alors, merci d'avoir été là. On va se quitter avec la flûte d'Anne-Laure Pantillon et le corps de Christophe Sturzenegger. Au piano, Marc Pantillon, c'est l'invocation extraite des scènes de la forêt de Belbonis. Et pour vous, ça c'est...
C'est aussi une découverte.
C'est aussi une découverte.
Et j'ai participé à la résurrection de cette personne dans le monde des mélomanes parce que j'ai fait l'intégrale de ses œuvres de ses œuvres d'inspiration religieuse, voilà, pour chœur.
Alors, ça nous prépare bien à cette ouverture de la semaine prochaine. Voilà. Le temps de vous dire que cette émission a été réalisée sous la supervision technique de Vital Côté. Armand Dubois, l'animation et réalisation, qui vous souhaite de passer un bon début de printemps et soyez des nôtres la semaine prochaine où nous retrouverons nos deux remarquables invités.
Merci.